Donald Trump et Vladimir Poutine vont s'entretenir au téléphone aujourd'hui dans la journée. Alors comment analyser tout cela dans le contexte d'une guerre en Ukraine qui n'en finit plus? On en parle avec Isaac Franco, l'analyste politique et chroniqueur de l'émission Chercher l'erreur. Chercher l'erreur que vous retrouvez bien sûr tous les lundis soirs de 17 à 18 heures sur Radio Judaïka et en rediffusion, s'il vous plaît, entre 13 et 14 heures tous les mercredis. Voici donc Isaac Franco. Il est au micro de Lucie Gilson.
Isaac Franco, bonjour. Vous êtes analyste politique et chroniqueur de l'émission Chercher l'erreur tous les lundis soirs sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, je le disais, on aimerait revenir sur un événement assez marquant, c'est cet appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Tout d'abord, les sujets qui vont être abordés, le président américain a évoqué des partages de certains avoirs, dont des terres et des usines de production d'énergie. C'est assez vague. Quelles pourraient être les implications de cette discussion?
D'abord, c'est d'amener la Russie à accepter ce que l'Ukraine a déjà accepté, c'est-à-dire le principe d'un cessez-le-feu. Est-ce que les Russes accepteront de souscrire à tout ce qui a été discuté déjà entre les Ukrainiens et les Américains lorsqu'ils se sont réunis
à
Jeddah, voilà. C'est le nom de la ville que je cherchais, en Arabie Saoudite de toutes les façons. Oui. Ils ont convenu un certain nombre de conditions pour accepter le cessez-le-feu. Les Ukrainiens ont accepté. Maintenant, il faudra voir si les Russes en feront autant. La balle est désormais dans leur camp. La pression s'allège sur les épaules des Ukrainiens. Maintenant, eh bien, on verra si les Russes accepteront eux aussi de ce principe de cessez-le-feu qui durerait un mois, mais qui permettrait à des négociations de commencer entre les Russes et les Ukrainiens dans la perspective d'une paix durable ou en tout cas d'une paix négociée qui permette à chacun de vivre et de sortir de cet enfer qui dure depuis plus de 3 ans.
Alors jusqu'ici, aux dernières nouvelles, la position de la Russie, elle restait la même, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de négociation de paix si l'Ukraine n'accepte pas de renoncer à ses terres conquises, soit 20% de son territoire à ce jour. On sent que ce n'est pas des conditions acceptables pour l'Ukraine, c'est pas non plus des conditions acceptables pour les pays européens. Donc au final, qu'est-ce qu'il cherche Vladimir Poutine à gagner du temps?
Mais je veux dire, c'est pas acceptable pour les Ukrainiens, c'est pas acceptable pour les Européens, dites-vous. Et vous avez raison, c'est un peu leur position. Mais je veux dire, quel est le choix? Est-ce que les Ukrainiens, aidés par les Européens, ont une quelconque chance de pouvoir récupérer militairement les territoires perdus du Donbass et plus encore ceux de Crimée qui ont été pris par la Russie en 2014 déjà? Aucune chance. Sur un plan militaire, les Ukrainiens ont mesuré combien il est impossible pour eux de reprendre ces territoires. Donc c'est une guerre qui n'offre pas de sortie de crise. Elle ne va pas désigner un vainqueur, que ce soit les Ukrainiens ou les Russes. Les Russes, en 3 ans, n'ont pris que 20%, 18 à 20% du territoire ukrainien. Donc c'est dur pour eux aussi. Ils n'iront pas au-delà parce que les Occidentaux ont fourni aux Ukrainiens suffisamment d'armes pour se défendre valablement. Mais pas pour attaquer, pas pour gagner, juste pour se défendre, c'est-à-dire pour ne pas perdre. Donc les Russes ne peuvent pas gagner au-delà de ce qu'ils ont déjà engrangé comme dividendes territoriaux. Quant aux Ukrainiens, ils n'ont pas les moyens de frapper les Russes parce que sinon on change de braquet, on tombe dans un risque d'une conflagration beaucoup plus importante. Les Ukrainiens n'ont aucune chance de reprendre ces territoires perdus. Donc c'est une guerre qui risque bien de s'installer pour très très longtemps dans une guerre de tranchées qui ressemble beaucoup à la guerre de 14-18 avec des pertes humaines qui peuvent se compter par centaines de milliers des deux côtés de la frontière. Lorsque vous avez un problème qui n'offre pas de solution militaire, ben il faut nécessairement recourir à l'option politique. Maintenant, comment s'organisera cet accord, si accord il y a, je l'ignore, mais penser que les Ukrainiens pourront reprendre les territoires perdus, ça me semble assez illusoire. Je pense que on gèlera les acquis territoriaux engrangés par les Russes d'une manière formelle, sans pour autant que ce soit considéré comme une souveraineté de la Fédération de Russie de jure. C'est-à-dire, il n'y aura pas de reconnaissance de la souveraineté russe sur les territoires. Mais de facto, eh bien, ces territoires seront perdus. Je vois pas comment est-ce que les Ukrainiens peuvent penser de les reprendre. Et tout soutien de l'Union européenne ne changera pas grand-chose à l'affaire.
Est-ce que ça pourrait ressembler à une issue du type de ce qu'on a pu voir sur les conflits gelés du Caucase, par exemple ?
Oui, par exemple. Mais encore une fois, je vois pas très très bien quels sont les moyens dont dispose. Vous savez, cette guerre, elle est née sous une énorme hypocrisie. Le 24 février 2022, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est que les Européens ont donné... Les Européens et les Américains ont donné aux Ukrainiens, comme je le disais tout à l'heure, tous les moyens pour se défendre. Mais pas pour porter le fer sur le territoire russe. C'est-à-dire, il était permis aux Ukrainiens, il était possible pour les Ukrainiens de se défendre aussi bien que possible, et ils l'ont fait de façon héroïque, de façon absolument remarquable, mais pas de gagner, juste de se défendre. Juste de se défendre. Donc, jamais cette guerre n'est partie dans l'idée que les Ukrainiens allaient pouvoir... gagner cette guerre, juste ne pas la perdre. Et aujourd'hui, on se rend compte, eh bien, que les Russes sont en passe de faire évacuer le contingent ukrainien qui se trouve encore dans la poche de Koursk, parce que c'était la seule monnaie d'échange qui restait dans les mains des Ukrainiens. Donc, je vois pas très très bien comment est-ce que sur le terrain, cette guerre pourrait offrir une sortie quelconque pour les deux belligérants. Donc, il faut en passer par une option politique. Et c'est quelque chose d'assez remarquable, voilà. Vous savez, les Européens exigent, continuent d'être dans cette logique militaire. Il faut aider les Ukrainiens à tout prix. On n'est pas encore sorti de cette analyse qui veut que cette guerre n'offre pas de sortie de crise. Mmh. Alors que au Proche et Moyen-Orient, là où il y a une possibilité de sortir de l'impasse, par la voie militaire, on impose à Israël une solution politique. Là où en Israël, on exige d'Israël... Eh bien, un cessez-le-feu immédiat, sans condition, eh bien, les Européens rechignent à appuyer les Ukrainiens à accepter un cessez-le-feu s'il n'est pas assorti de garanties de sécurité. Donc, on veut des garanties de sécurité au bénéfice des Ukrainiens dans la guerre face aux Russes, mais on ne demande pas des garanties de sécurité au bénéfice des Israéliens face au Hamas. Donc, là où il n'y a pas d'issue militaire, on insiste sur la voie militaire. Là où il y a une issue militaire, on a su sur la voie politique.
Alors, Poutine, c'est un ancien agent du KGB. Il maîtrise les techniques de bluff, de coups de poker, on peut dire. Zelensky, lui, dénonce une rhétorique manipulatrice, mais il est de l'autre côté du conflit. Donc, c'est assez évident qu'il va mettre en garde contre la rhétorique de Vladimir Poutine. Le président américain Donald Trump, on le sait, assez fanfaron, mais il navigue ici un peu tout de même dans des eaux bien troubles. Il a conscience de ça. Est-ce que il a conscience qu'il y a des stratégies diplomatiques qui pourraient
lui échapper
qui pourraient faire penser qu'il va se laisser manipuler, en fait.
J'ai du mal à penser qu'il se trouve quelqu'un qui croit raisonnablement pouvoir manipuler le président américain. Vous savez, la position qu'a prise les États-Unis, et comprise les États-Unis, ça n'est pas une position amicale vis-à-vis de la Russie. C'est simplement de contraindre les Ukrainiens de sortir de cette logique militaire pour entrer dans une logique politique.
Donald Trump, il a quand même évoqué, avec cet entretien, il a quand même dit qu'il allait un peu parachever les tentatives de rapprochement russo-américain.
Oui, mais ça ne veut pas dire que si les Russes refusent le cessez-le-feu, qu'il n'y aura pas des sanctions contre les Russes, et que l'ire de Donald Trump qui s'est porté sur Zelensky le mois dernier à Washington ne va pas se reporter sur Poutine. Vous savez, Donald Trump a investi énormément de capital politique dans cette affaire. Il a mis tout son poids dans la balance pour la résolution de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Rappelez-vous, en campagne électorale, il disait « je vais le résoudre ça en 24 heures ». Donc, aujourd'hui, il met une grande partie de son capital politique en jeu. Et il n'a pas envie d'être déçu sur ce plan-là. Donc ce serait un camouflet si la diplomatie américaine, premier rang desquels le président lui-même perdrait de son crédit. Donc, à partir du moment où le président des États-Unis investit autant de sa personne et de sa diplomatie pour amener les deux belligérants à une table des négociations, c'est parce que il y croit. Et je vois difficilement comment et pourquoi les Russes accepteraient à tout le moins d'accepter un cessez-le-feu pour s'asseoir à la table des négociations. Après, ce que donneraient ces négociations, on ne le sait pas. Mais en tout cas, déjà accepter le principe d'un cessez-le-feu.
Alors, pour finir, j'aimerais évoquer avec vous un autre dossier, celui des minerais ukrainiens, hein, qui était un élément assez chaud justement de cette conversation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Et puis, on n'en a plus trop entendu parler entre-temps. Alors, où en est tout de ce côté-là ?
Bah, je veux dire, Zelensky avait été invité à Washington pour signer ce document. Oui. Bon, on sait ce qu'il en a été. Et puis une semaine après son retour de Washington, il a présenté ses plates excuses. Il a remercié Donald Trump comme Donald Trump aime être remercié. Et donc, on a signé ou on va signer cette lettre qui permettra aux Américains d'exploiter toute cette terre rare qui se trouve en Ukraine, en tout cas dans le territoire qui reste sous la souveraineté ukrainienne. Donc c'est la meilleure garantie de sécurité. D'ailleurs, c'est ce que la diplomatie américaine a dit à Zelensky. Vous voulez des garanties de sécurité, mais le simple fait que les Américains vont investir énormément d'argent dans l'exploitation de ces terres rares, c'est votre meilleure garantie de sécurité, parce que jamais les Russes ne s'en prendront à un territoire où il y a de tels investissements américains. C'est votre garantie de sécurité. Donc ça se fera. Il faut aussi savoir que sur les territoires conquis par les Russes, dans le Donbass, c'est pas seulement pour libérer les russophones et les russophiles du Donbass, hein, et les ramener à la mère patrie. Il y a aussi des intérêts. Il y a aussi des terres rares dans les territoires conquis par les Russes, et ces terres rares sont aussi importantes, et donc les Russes comptent autant les exploiter que les Américains dans la partie occidentale du pays.
Eh bien, Isaac Franco, je vous remercie pour cette analyse. Donc, je rappelle que vous êtes analyste politique et chroniqueur de l'émission Chercher l'erreur, qui est diffusée donc tous les lundis soirs sur Radio Judaïka. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci pour votre invitation, au revoir.